Don Quichotte un prodigieux désir de vie. Il était une fois, dans un village de La Mancha en Espagne, un gentilhomme campagnard du nom d'Alonso Quichano qui passe ses heures d'oisiveté, c'est-à-dire le plus clair de son temps, plongé avec ravissement dans les romans de chevalerie. Il finit par en perdre la raison. Au crépuscule de sa vie, il n'a rien d'un frêle vieillard. Il est, dit-on, de constitution robuste, sec de corps, maigre de visage, toujours matinal et grand chasseur. Il vit modestement, entouré d'une gouvernante, d'une nièce, d'un valet, d'un chien et d'un cheval. Sous l'influence des livres qu'il dévore, il décide de devenir lui-même l'un de ces chevaliers errants dont il admire les exploits. Lui qui n'a pas quitté son village sinon pour chasser le pigeon aux alentours, se met en route. Comme eux, il adopte un surnom, Don Quichotte de la Mancha. Nettoie les vieilles armes poussiéreuses qui ont appartenu à ses ancêtres et sort de son village sur le dos de sa monture, Rocinante. Une rosse maigre et efflanquée, mais qui pour lui est le plus beau des coursiers. Enfin, pour dame à laquelle il dédiera ses exploits, il choisit une femme d'un village voisin. Il ne l'a jamais vue et il ne la verra jamais, mais il lui donne le nom de Dulcinée du Toboso. Comme tout chevalier, il lui faut un écuyer. Son choix tombe sur un paysan assez crédule, naïf, n'ayant pas grand-chose dans la cervelle. Mais c'est une bonne patte d'homme. Il s'appelle Sancho Panza. Don Quichotte le persuade alors de le suivre en lui faisant la promesse de le nommer gouverneur d'un royaume ou d'un archipel qu'il aura conquis par ses prouesses. Sancho devient le compagnon indispensable du chevalier. Celui qui le suit, l'écoute, l'observe, le questionne, le plaint parfois et finalement l'admire. Cervantes n'est ni philosophe ni moraliste, encore moins théologien, médecin ou redresseur de tort. Et il ne cherche donc jamais à guérir son Don Quichotte d'une certaine folie, ni même à la dissimuler. Au contraire, il la soutient, la défend, la protège. Et bien que son chevalier frise l'âge où la plupart de ses contemporains mortels, devenus casaniers et frileux, commencent à ne plus avoir trop envie de bouger, Cervantes accorde à son personnage l'audace de quitter sa gouvernante, sa nièce, le barbier et le curé de son village afin de poursuivre ses rêves, de partir à la recherche de l'aventure et d'une gloire éternelle, semblable à celle de ses héros Palmerin d'Angleterre ou Amadis de Gaulle. Dès le début de son livre, Cervantes choisit d'accompagner la folie de Don Quichotte. Il va même jusqu'à lui permettre de la déployer en toute souveraineté, en lui offrant le plus fidèle des compagnons, le plus différent de lui, le plus ancré dans le réel, le plus éloigné des livres, mais le plus singulier et le plus indépendant. Celui qui écoute, accompagne, participe, passe aussi son temps à discuter avec Don Quichotte, en rouspétant sans cesse du traitement qu'il se voit infliger, un peu à la manière du valet de Don Juan Sganarelle. Il refuse d'ailleurs de jouer à égalité avec son maître, et il lui arrive même de répondre à ses avances en affirmant qu'il préfère manger seul et dans son coin, comme il l'entend, sans avoir à lui faire la conversation. C'est avec une conscience aiguë de ses propres valeurs, bien différentes de celles de la chevalerie, que Sancho, le trapu, le prolétaire, rappelle à l'élégant et longiligne Quichotte qu'il restera toujours son écuyer, mais jamais son esclave. « Je ne vis que du désir de vivre », écrit Cervantes peu de jours avant de mourir. Comme lui, à chaque page, au tournant des multiples rencontres, tous les personnages du roman semblent dire la même chose et ne vivre que de cette soif. Il y a dans le Quichotte un prodigieux désir de vie, un amour du nouveau, une acceptation de l'échec liée à la reconnaissance du désir vécu dans sa plénitude. Une urgence souterraine, insouciante des lois de la bienséance, qui touche tout un chacun et lui permet de risquer la mort pour vivre. Cette urgence ressemble aux dons que reçoivent les plus désespérés. à commencer bien sûr par Don Quichotte avec sa boulimie de livres et d'aventures, ou par exemple le bandit Ginés de Pasamonte, affectueusement surnommé Ginesilio de Parapillo. Parce que Cervantes aime les galériens et qu'il a été leur compagnon de prison pendant 5 ans à Alger. Cervantes n'est pas prêt à accepter que ses propres créatures, aussi marginales, extravagantes ou hors la loi soient-elles, en viennent à sombrer dans le désespoir ou l'isolement. Cette autre folie qui coupe et tue au lieu de faire vivre. Aussi, le roman Don Quichotte se présente-t-il d'abord au lecteur comme une œuvre destinée à faire rire. Et Cervantes insiste sur cette dimension dès le prologue. Cependant, le rire que Don Quichotte inspire est d'un genre particulier. En raison de l'ambiguïté qui caractérise les aventures des personnages, le protagoniste est souvent ridicule, mais il mérite d'être appelé ingénieux. Sa culture encyclopédique, ses qualités d'observation et de réflexion forcent le respect de ses interlocuteurs. Enfin, il n'est pas toujours aisé de deviner ce dont il faut rire et ceux qui font rire. Ainsi, des épisodes où le duc et la duchesse s'égayent aux dépens de Don Quichotte et de Sancho. Les ressorts du comique changent de nature aussi au fil du texte, notamment entre la première et la deuxième partie. Enfin, la mission dont le protagoniste est investi se révèle ambiguë elle aussi, en particulier lorsqu'il entreprend de libérer les galériens ou le jeune Andrés frappé à coups d'étrivière par son maître. Chaque fois qu'il revient à Don Quichotte de tirer la leçon d'une aventure, un doute s'insinue dans l'esprit du lecteur. Soit qu'il affecte la réalité même de cette aventure, soit qu'il porte sur le sens que le protagoniste prétend lui donner. Cervantes, d'un bout à l'autre de son histoire, joue habilement de la diversité des opinions émises par ses personnages et par la vertu de cette polyphonie, le parcours du héros échappe constamment à toute interprétation univoque. Perçu comme un héros comique au XVIIe siècle, en Espagne comme à l'étranger, le XVIIIe juge Don Quichotte comme un hidalgo instruit qui n'a pas lu que des livres de chevalerie. Enfin, aux yeux des romantiques allemands, les aventures du chevalier ne sont plus jugées comme une épopée burlesque ou comique, mais comme une odyssée symbolique chargée d'une signification transcendante. Mais Don Quichotte et Sancho sont loin d'être naïfs et ils devinent plus ou moins obscurément que le lointain et merveilleux objet du désir n'existe pas vraiment, ou du moins, pas tout à fait. Disons qu'il existe et qu'il n'existe pas. Cervantes livre donc dans cette proximité, dans cette intimité du chevalier avec son écuyer, la clé de sa vie vagabonde, de son œuvre patiemment construite et surtout de son extraordinaire liberté. Car la folie de Don Quichotte ne serait-elle pas plutôt une extraordinaire ouverture spontanée aux autres et à lui-même ? Alors qu'il rencontre une caravane de prisonniers que l'on emmène aux galères, Don Quichotte ne supporte pas que les soldats du roi traînent ses forçats enchaînés. Comment est-il possible que le roi force qui que ce soit ? Il demande alors à chacun de ses 12 hors-la-loi de lui raconter son histoire, offrant ainsi à chacun d'entre eux, à l'occasion de ce récit personnel, de retrouver une identité singulière, une dignité qui lui appartient et qui pour Don Quichotte est aussi importante que la liberté. J'aimerais connaître de chacun la cause de son malheur. Or, aucun parmi eux, sauf un seul, ne se pose en victime de son passé. Le garde explique que chacun des galériens est conscient que sa vie et sa mort tiennent à sa langue. Tout enchaîné qu'il soit, il sait que sa vie dépend du courage avec lequel il la soutient. Seul est méprisé par ses propres compagnons, celui qui n'a pas eu la force de dire non à ceux qui le battaient. Car tous les galériens disent qu'il y a autant de lettres dans un non que dans un oui.
Si vous me disiez que l'espace ainsi fidèle ne vous plaît point, chevalier Dieu, la lance au poing, j'étoile le vent qui passe. Mais si vous disiez que mon sang est plus
à moi.